Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, coach Courbis est là avec nous ce soir dans l'after. Tout à l'heure, on parlera de l'Olympique lyonnais, on parlera des affaires au PSG avec les développements du jour. Mais pour l'instant, restons sur l'OM, parce que donc il y a match demain à Angers. Oui ?
Non, écoute.
Non ?
J'en parlerai plus tard.
D'accord.
Je ne voulais pas te couper, pardon.
Il veut nous faire des surprises.
Hein. À quel propos ?
Non, rien, vas-y, continue. Au retour d'accord. De la prochaine pub, allez.
Ouais, très bien. Ok. Bon, coach, petite photo de tout à l'heure. Romain Calouti nous disait il faut absolument que Tudor garde le même système, qu'on ne change pas. Il y a quelques absents demain, suspendus, notamment Nuno Tavares. Bon, toi, tu es d'accord avec Romain Calouti, il faut garder ce système, il te plaît ?
Oh ben, c'est pas que je pense qu'il me plaît ou qu'il me plaît pas, mais je vois aucune raison de pouvoir changer de système, que ce soit dans un autre match ou que ce soit en cours de match. Je comprends pas.
Mais si Romain en parle, l'intérêt. C'est qu'il y a dû avoir quand même velléité de le faire, Florent, j'imagine.
Pas à ma connaissance. C'est vrai que Igor Tudor est fidèle normalement à ce système de trois défenseurs axiaux, des pistons.
Le schéma à la mode.
Je le vois pas changer, sauf quatre forces majeures. Enfin, on a quand même avant la trêve plaisanté et on a rigolé un petit peu jaune avec coach Courbis, enfin avec Roland, parce que vu tous les blessés qu'il y avait eu à un moment donné, on était persuadé qu'une défense à 4 allait s'imposer et il a préféré jouer avec Rongier sur les côtés et je sais plus qui était à gauche.
Ah mais non, l'exploit c'était Tavares arrière central.
Tavares arrière central. Donc,
si tu l'avais mis dans un jeu pour deviner, c'est impossible.
Moi, la tendance, c'est qu'il change pas de système. Après, il a expliqué aujourd'hui.
Après, l'OM est invaincu en championnat, je le rappelle. Hein. Ouais, donc.
Bah oui, faut pas. Non, il y a pas forcément de raison majeure à vouloir changer de système. Est-ce que c'est plutôt dans le management individuel des hommes? Est-ce qu'il peut changer quelque chose? Est-ce qu'il peut relancer un Bamba Dieng?
Qu'il est revenu, il paraît qu'il est plus affûté, et il paraît qu'il pourrait retrouver une place.
Il y a un truc moi qui me dérange. Je veux pas m'amuser à faire le professeur, mais par moment j'ai l'impression d'en être obligé, que ce soit à l'OM, que ce soit en équipe de France, que ce soit au Paris Saint-Germain, les débats c'est est-ce qu'il faut changer de système? Mais c'est interdit d'avoir deux systèmes et de, par exemple, démarrer un match avec trois arrières centraux et suivant ce qui se passe à 30 minutes de la fin, tu enlèves un arrière central, tu mets un...
On avait dit que les débats équipe de France, on ne les faisait pas ce soir.
Mais ce n'est pas le débat équipe de France.
Ce que tu dis là, Roland, c'est ce que faisait un homme comme Sampaoli l'année dernière. Tout le monde le taillait toujours parce qu'il changeait toujours plein de systèmes en même temps. Peut-être qu'il devait le faire trop et ça devait chagriner les gens. Aujourd'hui, il a des joueurs Tudor qui entrent dans ce système-là. Moi, j'ai pas de système préféré, c'est plutôt l'esprit et l'animation d'une équipe qui m'intéresse. Après effectivement, tu as raison, en cours de match, il peut éventuellement changer ou pas. Mais la situation de l'OM aujourd'hui, elle est claire. En Ligue des Champions, il n'y arrive pas et c'était plus ou moins prévisible, parce que tu sens aucune de nos équipes françaises n'y arrive, ni en Ligue des Champions, ni en Europa League. Mais pour ce qui est du championnat, l'OM fait un parcours parfait, comme il n'a pas fait depuis très longtemps dans son histoire. Invaincu, comme le PSG, comme Lens. Il y a rien à dire sur ce qu'ils ont fait. Le calendrier, a été, on peut le juger plus ou moins difficile, mais celui de Lyon est pas plus compliqué, celui du PSG est pas beaucoup plus compliqué. Enfin bref, de toute façon, le calendrier, il est ce qu'il est avec les équipes de Ligue 1 qu'on sait globalement assez faibles, puisqu'elles nous montrent en semaine en Coupe d'Europe que finalement, elles ne sont pas très fortes. Et dans ce contexte qui est celui de notre Ligue 1, à savoir 8e, 9e nation d'Europe, eh ben l'OM a 20 points. Une moyenne largement plus élevée que 2 points par match, 0 défaite, le début de saison, il n'y a rien à redire. Vraiment, il est même plutôt excellent.
Mais oui, moi je rajouterai pas, c'est pas que je suis toujours mécontent, l'empêcheur de tourner en rond, mais ce que je rajouterai quand même Attendons, calmons-nous. Bravo pour ce début de saison. Et rapidement, je peux quand même m'occuper un petit peu des adversaires. Reims, Brest, Nantes, Nice, trois jours après la prolongation.
Non, c'est bien, c'est une équipe européenne, Nantes. Nice aussi.
Oui, bien sûr.
Ah oui, pourquoi?
Clairement, AGIA.
Lyon, ils n'ont pas rencontré des équipes. Lyon, il faut qu'ils fassent des suicides collectifs.
Mais non,
parce que leur calendrier est encore plus facile que ça.
Je ne te parle pas de Lyon, je te parle de l'Olympique de Marseille. Je dis bravo.
Bah oui.
Je dis bravo. Mais je constate quand même.
Mais c'est qui les équipes compliquées dans notre championnat, Roland, qu'il aurait fallu dans ta liste? Qui il aurait fallu de plus dur?
Lille.
C'est qui dur? Lille, ils les ont battus.
Paris Saint-Germain, Monaco,
à part. Mais
Lyon,
Monaco?
Ben oui.
Monaco, l'équipe qui a perdu contre Ferencváros?
Ah ben attends, l'équipe qui a perdu contre Ferencváros, c'est une équipe qui aujourd'hui va peut-être s'améliorer et tu verras qu'à la fin de la saison,
elle s'améliorera, elle s'améliorera. Mais aujourd'hui, le calendrier de Marseille est pas plus simple ou plus dur ou plus tout ce que tu veux que tous ceux qu'ont eu les autres équipes, en fait.
Je te dis que dans le calendrier de Marseille, il y a une coïncidence. Je pose une question qui peut-être n'est pas une coïncidence. Dès que bizarrement on rencontre Tottenham, alors que la première mi-temps,
ça n'a rien à voir. La Ligue des Champions, ils n'y arrivent pas. La première mi-temps,
ils y arrivaient. Donc Francfort. Mais là, c'est pour moi le match le plus décevant de ce début de saison. Et après, tu rencontres Rennes qui a joué le jeudi. Pour moi, le match nul contre Rennes, c'est une contre-performance. Eh ben, c'est ma vision.
Oui, tu peux le voir comme une contre-performance. Rennes est en train de progresser, comme l'a dit fort justement Genesio aujourd'hui en conférence de presse. Après, tu peux pas mélanger Ligue des Champions championnat, puisque, comme je l'ai dit, malheureusement, il faut vraiment qu'on fasse une distinction nette. En Coupe d'Europe, on a un problème. Et le problème, c'est qu'il est même plus grand, c'est que depuis qu'on cherche à l'analyser, nous, il y a quelques semaines, quelques jours, une personne était venue pour nous donner des stats qui font peur, qui feraient peur à des enfants la nuit, tellement c'est horrible ce qu'on fait en Coupe d'Europe. Le pire, c'est qu'on n'arrive même plus à trouver des gens capables de nous expliquer pourquoi on est si mauvais en Coupe d'Europe. Les acteurs du foot français. Moi, j'ai tenté des explications sur justement notre prétention.
Chaque année, on est sur un jeu sort.
Le manque d'humilité qu'on a.
Pas de réponse.
La mauvaise approche qu'on a de ces compétitions. Je tente certaines explications. Les acteurs du foot te disent, nous ne comprenons pas pourquoi on est si mauvais. C'est terrible. Donc, distinguons la Coupe d'Europe du championnat. Le championnat, l'OM fait un parcours sans faute.
Pour le moment, Daniel, à l'Olympique de Marseille,
pour le moment, c'est pas la suite.
Si on, mais exactement.
Roland, ensuite.
Si on ne s'occupe pas des adversaires et de dire que l'OM a su profiter d'un calendrier qui était un calendrier sympa,
Lyon.
On va voir par la suite. Mais je crois que le débat, c'était en ce qui concerne le système. Et moi, je donne comme idée que nous sommes, et des fois, je me mets un petit peu à la place, puisque les années passent vite, et que ma carrière d'entraîneur, eh ben, j'y réfléchis, elle est derrière, et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette époque où il y avait la chance, je dis bien la chance, d'avoir la possibilité de faire 5 changements. Eh ben, je faisais 3 changements avant le match. En regardant un petit peu comment on allait se partager le boulot, et je gardais après deux changements pour savoir en fonction de ce qui se serait passé dans la première heure, de voir qu'est-ce que j'allais pouvoir faire.
Je comprends pas où tu veux en venir, en fait.
Mais je veux en venir que c'est ça le problème de la question de Tudor.
Oui, c'est la question.
J'ai mal compris.
Non, c'était la question.
Doit-il changer son système? Et moi, je réponds, pourquoi, en cours de match, il pourrait pas y avoir un autre système pour terminer un match qui s'est peut-être moins bien placé que prévu dans la première heure?
La vérité, c'est que, mine de rien.
Je veux dire, Daniel, une fois que tu passes à 3 arrières centraux, il y a un règlement qui fait que tu es obligé de terminer avec 3 arrières centraux.
La vérité, c'est que, mine de rien, si je t'ai entendu.
Non, tu m'as pas répondu.
Mais je suis en train. D'accord. La vérité, c'est que Tudor, à part sur les 3 centraux, où là, il est, j'ai l'impression, réellement fixé sur cette idée-là, quand à un moment on a eu Guendouzi dans les 3 duos ou pas, c'était déjà une sorte de changement d'animation. Le fait que tu mettes un milieu de terrain, qui est à la base même plutôt un milieu défensif, dans les 3 du 3-4-3,
Dans les 3 offensifs.
Voilà.
C'est-à-dire, c'est le match de Deschamps.
Bah, c'était, exactement. C'était déjà la volonté de renforcer un peu le milieu de terrain et de transformer ça plutôt en une sorte de 3-5-2 quelque part. Donc les changements de système, il les a fait parfois avec des choix un peu étonnants, en a souligné un tout à l'heure, ou parfois Kolasinac qui est arrivé peut-être pour être un homme de couloir, on s'aperçoit que non, finalement il est mieux dans les trois de l'axe. Nuno Tavares, en cours de match, dans un choix un peu bizarre, est venu se mettre dans cette position. Il a rechangé toutes ses après, et c'est pas là qu'il faut qu'il soit. Il faut qu'il soit plutôt à l'extérieur, et c'est mieux qu'il soit à l'extérieur. Il a pas mal brassé quand même. Hein. On a l'impression qu'il est resté sur des choses un peu figées. Tudor, moi je trouve qu'il a quand même un peu brassé, même avec Rongier à qui il a demandé de changer une ou deux fois de place. Il a un peu varié, il a quand même varié, ne serait-ce que Payet titulaire, pas titulaire.
Oui, mais
il en a fait des essais quand même.
Je donne mon avis.
Et le prochain, ça va être de remettre Dieng.
Je trouve qu'il a un effectif pour pouvoir se permettre, avec les calendriers qu'il y a, les matchs tous les trois jours et tout, de changer avant même le match, de dire à six joueurs. Toi tu démarres, toi tu rentres à 60e, toi tu démarres, toi tu rentres à 60e, toi tu démarres, tu rentres à 60e. Et après, on verra pour le 4e et le 5e changement. Et la possibilité, ce qu'on peut appeler un plan A et un plan B, d'avoir la possibilité de démarrer dans une organisation et de terminer dans une organisation avec un offensif de plus, parce que sinon, tu vas pas me dire que dans l'époque que nous vivons, avec les vidéos, les analyses et les machin, les sites de là, mais au bout de deux mois, tout le monde va connaître ton système, les déplacements, les points forts, les points moins forts. Et bien là, il faut quand même un petit peu brouiller les pistes.
Alors Florent, tu voulais ajouter un truc, après on accueillera Lucas pour conclure.
Non, mais je réagissais rapidement à ce que disait Daniel concernant le blocage un peu psychologique en Coupe d'Europe. Moi, j'ai le sentiment que c'est un petit peu ça avec l'OM, parce que personne n'a su expliquer la contre-performance des Marseillais face à Francfort. T'avais l'impression que même c'était de l'ordre mental, en fait.
Mais c'est la même chose. Je me suis renseigné, j'ai demandé à des gens à Monaco. Ils sont circonspects, bouche ouverte. Comment ils peuvent perdre contre Ferencvaros? Tous les ans, on a... Alors toi, tu me diras, la Ligue des Champions, c'est différent. Et tu auras raison. Et peut-être qu'effectivement, il y a une approche mentale. Mais même en Europa League, tu parles avec les mecs, tu dis, mais comment on peut perdre contre ce genre d'équipe-là? Et on perd. Je crois, je le répète, je le dis souvent, je crois qu'on ne se rend pas compte dans les médias français, dans les experts observateurs comme Roland, on ne veut pas admettre notre vrai niveau. Il faut rebosser à la base. On se voit toujours trop beau, trop fort. On manque d'humilité. Au moment du tirage au sort de l'OM, la plupart des consultants, tes collègues et tes confrères disent l'OM va sortir. Et moi, je dis arrêtez! Taisez-vous!
Eh ben, si je te pose la question à la mi-temps de Tottenham, c'est peut-être toi qui se tais.
Pourquoi?
Alors, ça aurait été un petit peu trop tôt.
Mais c'est un petit peu tôt quand même, à la mi-temps de Tottenham. Moi, j'étais à la mi-temps de Tottenham.
Je suis
bouche ouverte, Roland.
Finalement, on a une équipe qui tient la route en Champions League à l'extérieur, à Tottenham.
Mais après,
coup, patatrac.
Ouais, mais Roland, après 45 minutes.
Fais ce tac le bidon.
Après 45 minutes, j'ai pas sorti les tambours et les trompettes. J'étais content, j'étais bouche bée, je dis waouh! Pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Attention, ils ne créent rien. Ils ne font que contenir l'adversaire. Mais déjà, j'étais très agréablement étonné. J'en suis même arrivé, comme beaucoup de supporters marseillais, j'imagine, dans ce match-là, à fantasmer sur une maîtrise de ce score et un but en contre à la fin. Je pense que beaucoup de supporters de l'OM ont fantasmé ce scénario.
Tout la déception derrière
a été à la hauteur de ce fantasme-là.
Ouais, exactement.
Mais dans la foulée,
Dans la foulée,
il y a eu l'OM. Après le scénar de la deuxième mi-temps, il y a eu l'OM contre Francfort, une énorme déception, et il y a eu les autres équipes. Et quand tu prends les autres équipes dans la gueule dans les fameux jeudis, tu te dis, il y a un problème global. Et ce problème global, c'est l'espèce de coton dans lequel on est enfermé, avec tous les commentaires de la presse, des experts, des consultants, qui voient toujours le football français plus beau qu'il l'est.
Allez, dans quelques instants, là, Lucas, avec nous,
Je fais très vite.
Ben non, parce qu'en fait.
On n'a pas le temps.
Okay. Mais t'inquiète pas, derrière, t'auras le temps de faire un peu moins vite, du coup. À tout de suite dans l'after pour conclure sur l'OM.